Afin de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette situation, nous avons invité David Shapira, historien et guide touristique, dont l'expertise éclairera notre discussion sur la loi en vigueur et les différentes perspectives entourant cette question controversée. David, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Cannes en français.
Alors, c'est vrai que la loi sur la conscription est un sujet très complexe, qui mélange politique, foi, religion. Alors, premièrement, est-ce que vous pouvez nous faire un peu d'ordre ?
Oui, alors, oui, d'accord. On va peut-être se référer à ce qui s'est passé il y a 24 heures, avec une déclaration fracassante du grand rabbin d'Israël, Sefarad, qui a, dans un cours, exprimé l'idée que si les ultra-orthodoxes étaient enrôlés de force, eh bien, ils devraient quitter Israël pour aller à l'étranger, je pense, ils seront peut-être mieux traités à l'étranger plutôt qu'en Israël. Alors, cette déclaration a fait un scandale. Tout d'abord, ce qui est scandaleux au-delà de cette déclaration, c'est que la plupart des députés de la coalition, donc de la majorité, se sont tus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réaction ni de condamnation. Et ce qui est doublement scandaleux, c'est que cette déclaration a été faite par le grand rabbin d'Israël, donc le rabbin qui représente l'État d'Israël auprès des institutions, auprès d'ailleurs de toutes les cérémonies. Il a un rôle très représentatif et en fait, il dédouane et il est prêt à quitter le pays et à quitter le pays pour tous les orthodoxes qui devraient s'engager, s'enrôler dans l'armée. Maintenant, le contexte, si vous voulez, pour répondre un petit peu à votre question. Et là, je suis obligé un petit peu de revenir très rapidement dans l'historique de l'État d'Israël. En 1948, lorsque David Ben-Gurion s'apprête à créer l'indépendance de l'État d'Israël, il rencontre un sage, un dirigeant du milieu lituanien ultra-orthodoxe qu'on appelait le Chazon Ish, le Rav Ishayahu Karlitz. Et le Chazon Ish, qui se trouve à Bnei Brak, discute avec Ben-Gurion et lui dit la chose suivante. Hitler a détruit tout le monde des yeshivot en Europe. Le monde des étudiants a été complètement détruit, exterminé. Et je te demande, s'il te plaît, de nous laisser la dispense, de nous dispenser de 400 élèves de yeshiva par an pour reconstruire le monde des yeshivot qui a été exterminé par Hitler. Donc 400 par an, Ben-Gurion dit OK. D'ailleurs, Ben-Gurion est d'accord parce que Ben-Gurion souhaitait et devait faire rentrer dans sa coalition les partis ultra-orthodoxes. Donc ça a duré comme ça pendant près de 30 ans. Et en 1977, lorsque Menachem Begin est arrivé au pouvoir, eh bien, les partis ultra-orthodoxes lui ont fait ce chantage en disant que si il voulait qu'il fasse partie de sa coalition, il fallait qu'il donne une dispense générale à tous les élèves qui étudiaient à la yeshiva. Je ne sais pas si, je ne voulais pas rappeler encore, mais depuis d'ailleurs la Seconde Guerre mondiale, le Chazon Ish et d'autres sages avaient exigé que tous les élèves de 18 ans rentrent à la yeshiva sans exception. C'est-à-dire que dans le monde orthodoxe, pour le reconstruire après la terrible extermination en Europe des nazis contre le peuple juif, il fallait que tout le monde aille à la yeshiva. Donc à partir de 1977, c'est tout le monde, si vous voulez, c'est tous les adolescents qui ont 18 ans qui vont à la yeshiva et qui se font dispenser de l'armée. Alors au départ, c'était quelques centaines, c'était après quelques milliers. Et puis il y a quelques années, il y a eu un appel à la Haute Cour de justice en disant « c'est pas possible que le ministre de la Défense dispense des dizaines et dizaines de milliers d'élèves au nom de, je dirais, au nom de l'égalité des droits et des devoirs. » C'est-à-dire que quand c'était 400, 500 par an, 1000, 2000, 3000, mais quand ça devient des dizaines de milliers, le ministre de la Défense n'a pas l'autorité de dispenser des dizaines de milliers de personnes de façon en masse. Oui. Et là, la Haute Cour de justice a dit au gouvernement, ce monsieur a raison, il faut maintenant faire une loi qui fasse de l'ordre. Le problème, c'est que la loi, elle ne peut pas dispenser tous les élèves de Yeshiva, parce que la loi, les lois en Israël, elles doivent être applicables et appliquées pour tout le monde. Le feu rouge en Israël, tout le monde doit s'arrêter. Les impôts, tout le monde doit les payer. Il n'y a pas une population qui est dispensée. Il y a des populations qui payent moins d'impôts, plus d'impôts. Ça dépend dans la situation familiale, sociale dans laquelle vous vous trouvez. Ça dépend de la région où vous habitez. Mais tout le monde paye ses impôts. Personne n'a une dispense de payer des impôts. Et donc, il faut une loi. Or, cette loi, les partis ultra-orthodoxes ne veulent pas en entendre parler et menacent de quitter la coalition. Et si vous voulez, ça a été... Je finis juste, c'est un sujet qui me passionne, donc c'est pour ça que je voulais pas parler. Mais si je vous dis, cette loi qui devait passer a entraîné la chute du gouvernement Netanyahou il y a trois ans et demi. Et en fait, si nous sommes passés d'élection en élection depuis trois ans et demi, c'est-à-dire si nous avons subi 5 fois des échéances électorales, c'est à cause de cette loi. Et là, on arrive maintenant à une situation, si vous voulez, où la Haute Cour de justice dit que c'est plus possible de repousser. Il faut faire la loi, sinon le gouvernement, n'aura plus le droit de financer les yeshivot. Et là, ce sera la grande crise. Et donc maintenant, on se retrouve dans une situation où le gouvernement doit présenter une loi, sinon le budget des yeshivot va être arrêté. Voilà, je vous laisse maintenant me poser
la prochaine question. Non, il n'y a pas de souci. Parce que justement, ça fait donc, vous avez dit depuis 77, donc que les ultra-orthodoxes sont exemptés de l'armée. Alors, je voulais vous demander pourquoi, entre guillemets, soudainement, le gouvernement il veut faire passer cette loi en plein temps de guerre. Est-ce que c'est vraiment le meilleur moment maintenant pour parler d'une pareille loi ?
Non. Le gouvernement, depuis, je me semble, les années 90, a été sommé par la Haute Cour de justice de présenter une loi, de préparer une loi en disant la dispense à 200, 300, 400 ou même 1000, 2000 élèves par an, ça pouvait se faire avec la signature de la main du ministre de la Défense ou du chef d'état-major. Et c'est plus possible maintenant. Ce n'est plus possible. Le ministre de la Défense ou le chef d'état-major n'a pas l'autorité de dispenser des dizaines de milliers de personnes. Il n'a pas cette autorité. Il peut déclarer la guerre, préparer la guerre, le ministre de la Défense avec le Premier ministre, mais il peut pas. Il faut une loi. Il faut une loi. Or, cette loi doit faire preuve d'égalité. Et je ne sais pas si vous savez, dans un État normalement constitué, les droits et les devoirs sont partagés par toute la population. Oui, évidemment, il y a des personnes qui sont dispensées de l'armée, ceux qui sont handicapés, ceux qui ont des problèmes mentaux, physiques, etc., etc. La loi, évidemment, ne peut pas être appliquée à tout le monde. Mais si vous voulez dispenser des dizaines de milliers de personnes, alors que le pays est toujours en état de guerre depuis 1948, et nous voyons et nous constatons actuellement que cette guerre est une guerre quasi d'indépendance, c'est la suite de 1948, eh bien, il y a énormément de personnes qui sont offusquées, offensées, révoltées, et encore pire, quand on entend des déclarations du grand rabbin d'Israël, Sepharad, qui dit qu'il préférait appeler les élèves de Yeshiva à s'installer, à quitter Israël à l'étranger, plutôt que de s'enrôler dans l'armée, alors que l'armée manque d'effectifs. Pendant des années, on pensait qu'on pouvait se passer des ultra-orthodoxes. On se disait, l'armée n'en a pas besoin. Combien de fois j'ai entendu cet argument tout à fait stupide ? L'armée n'en a pas besoin et on se débrouille avec ce qu'on a et ça suffit. Eh bien non, ça ne suffit pas. Vous voyez qu'on ne peut pas ouvrir un front nord, on ne peut pas entamer une guerre sur le front nord et sur le front sud à Gaza en même temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas une guerre générale avec le Hezbollah, parce que nous n'avons pas assez d'effectifs.
Oui, mais David, excusez-moi, je vous coupe. On a besoin de combattants. Il manque de combattants. Mais est-ce que maintenant, si les ultra-orthodoxes s'enrôlent dans l'armée, est-ce qu'ils seront forcément combattants ? Je ne pense pas. Donc,
Alors, je réponds à votre question. Parce que vous parlez à quelqu'un qui a fait l'armée et donc qui se rappelle quelques chiffres. Pour un combattant Shirley, il faut 7 personnes, 7 soldats qui travaillent pour lui, c'est-à-dire que, vous savez que quand un combattant, il faut qu'il se nourrisse, donc il faut qu'il y ait une cuisine, il faut qu'il y ait des cantines, il faut qu'il ait une arme, donc il faut qu'il y ait des entrepôts d'armes, il a besoin maintenant de tanks, un tank. Qu'est-ce que vous croyez ? Il faut des mécaniciens, il faut l'entretenir, il faut le repeindre. La logistique, c'était en logistique. Il faut 7 personnes à la logistique pour un combattant. Donc on a besoin de mécaniciens, on a besoin de chauffeurs, on a besoin de gardes, de gardiens, on a besoin d'énormément de choses. Et puis vous savez, un combattant aujourd'hui, c'est pas seulement celui qui court sur les collines comme je l'ai fait il y a 40 ans et qui va chasser l'ennemi. C'est aussi quelqu'un qui se trouve devant un ordinateur, un écran, et qui dirige un drone avec de l'explosif, et qui, avec une manette, répond aux ordres de ceux qui sont sur le terrain et qui visent une cible. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est un combattant. Après tout, lui aussi, cette personne-là, il n'est peut-être pas combattant, je dirais, sur le terrain, mais il est tout à fait capable d'orienter une cible là où on lui demande. Il y a l'artillerie. Vous voyez, il y a énormément de... Il y a les démineurs, il y a ce qu'on appelle l'andassat, l'ingénierie militaire. Un combattant, c'est pas seulement juste quelqu'un qui se trouve sur Gaza, mais il y a énormément, si vous voulez, d'hommes pour servir le combattant, pour servir entre guillemets évidemment, mais pour servir le combattant qui se trouve lui sur le terrain. Et il faut encore 7 à personnes pour un combattant, voilà.
On entend des slogans comme « plutôt mourir que de s'enrôler » ou alors « on ira en prison plutôt que de s'enrôler dans l'armée ». Vous avez rappelé aussi les paroles du grand rav Yitzhak Yosef, qui a déclaré que les ultra-orthodoxes partiraient du pays éventuellement. Pourquoi les ultra-orthodoxes semblent si opposés au service obligatoire ?
Alors, ils estiment que le service militaire pourrait les détourner des voies de la Torah et de l'étude. Vous savez, l'étude, chez nous, chez le peuple juif, c'est le commandement le plus important parmi les 613 commandements. Mm-hmm. Et on estime que si on n'étudie pas, s'il n'y a personne qui l'étudie pendant même une heure, le monde pourrait s'effondrer. Et les élèves, aujourd'hui, ou les rabbins, estiment que c'est grâce aux étudiants qui étudient à la yeshiva que Israël peut survivre, que l'armée peut combattre, etc., etc. Bon, cette théorie, elle est très jolie. Elle n'a pas fait preuve de sa véracité au moment des ghettos, des camps de concentration et des camps d'extermination. Ça n'a pas aidé, comme tout le monde le sait. Mais dans le peuple juif, au sein du peuple juif, il y a 2000 ans, et je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais une idéologie qui s'appelle l'idéologie des pharisiens a développé, l'étude de la Torah pour contester la direction, les dirigeants qu'il y avait à cette époque, qui étaient les prêtres, qui n'étaient pas forcément des grands sages et qui n'étudient pas forcément la Torah. Et donc, si vous voulez, c'est par l'étude qu'on accède à une valeur spirituelle de plus en plus importante. C'est grâce à l'étude qu'on se rapproche de Dieu. Et certaines personnes estiment tout celui qui peut étudier la Torah doit étudier la Torah, et s'il fait autre chose, il perd son temps. Mais vous comprenez qu'une société ne peut pas vivre uniquement avec des étudiants de la Torah. Il nous faut des médecins, il nous faut des plombiers, il nous faut des cordonniers, il nous faut aussi des soldats. Parce que si on n'a pas de soldats et qu'on étudie tous la Torah, on se fera tous massacrer, parce que nous ne sommes pas entourés que d'amis en Israël. Donc c'est une évidence. C'est évident pour beaucoup de gens, ça ne l'est pas pour d'autres, et c'est cet aveuglement qui rend un petit peu fou les gens. Et en plus, le fait que une grande partie de la population, j'estime quand même à 70%, fait son service militaire, est fier de le faire, et d'autres ne le font pas, et préfèrent rester dans une yeshiva à étudier. Ce n'est pas faire, c'est-à-dire c'est pas juste. C'est pas juste, c'est pas la justice.
C'est
de l'inégalité, si vous voulez. C'est pas normal que parce qu'on veuille étudier la Torah, on ne fasse pas l'armée. On peut étudier la Torah avant l'armée, on peut étudier la Torah pendant l'armée. Il y a plein de programmes qui ont été ouverts dans les groupes sionistes religieux, comme la Yeshiva Tesder, comme ce qu'on appelle les Mechinot, les instituts pré-service. Il y a énormément de possibilités de faire son service, de s'arrêter au milieu, d'étudier, de reprendre, de compléter.
Oui, bien sûr.
Donc,
on ne leur dit pas d'arrêter complètement cette étude. Non, parce que c'est vrai que il y en a beaucoup qui disent, et moi je m'inclus moi-même, que la réussite de Tsahal est bien sûr sur les soldats qui sont très performants, mais aussi sur toutes les prières, toute l'étude qui est aussi
bien
derrière.
Bien sûr, les prières, ça aide beaucoup. Des fois, ça aide pas. Des fois, ça aide. Mais jusqu'à quand va-t-on continuer à dispenser les élèves ? Si je vous dis qu'il y a 167 450 élèves de yeshiva dispensés de l'armée, est-ce que c'est ce chiffre qui grandit d'année en année ? Est-ce que ça peut continuer encore comme ça et arriver à 200, 300 000 quand on sait que l'armée manque d'effectifs? Je ne suis pas contre l'idée d'exempter quelques centaines d'élèves chaque année qui sont des grands génies qui préfèrent se consacrer à l'étude. Très bien, ça, on peut. Ça, je pense que les Israéliens peuvent le comprendre. Quelques centaines d'élèves chaque année qui sont considérés comme des génies et qui préfèrent consacrer leur temps à l'étude de la Torah. Et puis après, peut-être, ils compléteront. Mais vous comprenez que 167 500 élèves qui sont financés par le gouvernement israélien, qui sont dispensés de l'armée, c'est plus possible.
Non, c'est rendu devient, compte, surtout ça, voilà, pendant cette guerre qu'on avait besoin d'eux. Quoi.
Et maintenant, c'est une grande claque. Et là, on se rend compte que tout ce qu'on nous avait dit au début, c'est-à-dire que Tzal n'en a pas besoin, elle peut s'en passer, on ne va pas faire la guerre aux ultra-orthodoxes, ce serait trop d'énergie perdue, et bien tout ça, ça tombe à l'eau, comme un jeu de cartes. Et là, on se rend compte qu'on a vraiment, vraiment besoin d'effectifs, et on est en manque d'effectifs. On est en manque parce que l'armée a décidé justement de cesser d'interrompre tous les programmes qui ont repoussent l'armée d'un an ou de deux ans et d'engager tout de suite parce qu'on a besoin de forces combattantes et de forces non combattantes aussi.
Alors David, ce qu'on entend dans les médias représente la position de toute la population orthodoxe? Parce que je voulais rappeler quand même que durant cette guerre, la population ultra-orthodoxe a extrêmement aidé. C'est eux qui ont évacué tous les morts des kibboutz.
Ce qu'ont fait les 300 ou 400 membres de Zaka, c'est formidable. D'abord, ils n'ont plus l'âge de faire l'armée. En général, c'est des personnes qui sont assez âgées. Non. Et ce qu'ils font, c'est très très bien.
Ce que je veux dire, c'est que la population ultra-orthodoxe est impliquée quand même.
Oui, dans l'armée. Non, mais je ne dis pas qu'ils ne s'appliquent pas. Je ne dis pas qu'ils se sont enfermés dans des abris qui ne sont pas sortis. Mais ce que fait un Israélien après l'âge de l'armée, c'est-à-dire s'il a envie de s'engager dans des associations de bénévolat, et beaucoup d'Israéliens font du bénévolat, et celui qui vous parle au micro aussi donne de son temps à faire du bénévolat. Mais ça ne remplace pas l'armée. Il faut l'armée. Le fait que j'aille aider des gens à Otsan, à Poal, ou à remplir des papiers au formulaire, c'est très bien. Le fait de ramasser des corps, c'est très bien. Mais il nous faut des soldats, et à 18 ans, pas à 35, ni à 40 ans, 45 ans. Si on ne comprend pas que dans un État en guerre, on a besoin d'une armée forte, alors il faut, ça ne sert à rien d'aller étudier le Talmud toute la journée. C'est une évidence. D'ailleurs, même dans les textes de la Bible, les textes talmudiques, il y a ce qui s'appelle la Milchemet Mitzvah, une guerre obligatoire, où tout le monde s'engage, tout le monde y va. Même le khatan le marié qui a moins d'un an avec sa femme. Donc il faut y aller, parce que c'est la guerre. Et vous savez qu'on ne peut pas être soldat en une semaine. Il y a 4 mois de formation, ce qu'on appelle les classes. Donc il faut y aller, il n'y a rien à faire. On ne peut pas se désister. Et avec toute l'admiration que j'ai pour toutes les associations bénévoles qui travaillent, et elles font un travail formidable, ça ne remplace pas l'armée. C'est pas la place d'eux. Ouais. Alors, et je vous rappelle, Shirley, parce que je l'ai fait aussi, qu'il y a une unité qui s'appelle Zach à l'armée, ça veut dire Ziyui Halalim, c'est-à-dire l'identification des corps. L'armée a sa propre structure d'identification des corps. Et si des personnes ne sont pas aptes à être combattants et veulent plutôt s'occuper d'identifier des cadavres, eh bien ça existe dans l'armée. Ça se fait. Mais on met un uniforme et on porte une arme et on sait aussi servir de son arme. Ça n'empêche pas, ce n'est pas antinomique.
David, merci beaucoup pour cette interview passionnante. On espère vous retrouver très très bientôt sur les ondes de Canon français. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée.
Merci Shirley. N'oubliez pas, nous allons vaincre et gagner la guerre.
Amen.
Amen. Shalom, shalom.